Amateur.
Il n'y a pas d'arme. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'une ardeur noble.
Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
C'est un malade en son. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Mais...
imiter son silence.
Bonjour à tous, vous êtes donc sur le théâtre de la Gamelle sur Radio Canu. Et juste avant de commencer avec le théâtre, je laisse la parole
et bien, dont je ne connais pas le nom.
Edouard Correa. Dans le micro,
s'il vous plaît. Edouard.
Oui, c'est Edouard Correa qui vient vers vous parce que vous avez eu un leitmotiv de toute façon qui est universel. Universel, mondial. Voilà. D'origine sénégalaise qui vit à Lyon depuis 1988. Et je m'adressais à tout le monde entier. Voilà. Quelle que soit la nationalité, quelle que soit de toute façon l'origine, ni comment s'appelle la religion. Voilà. Donc, on est ensemble et soyons ensemble. Et je suis ensemble avec vous.
Merci. Super. Merci beaucoup, Edouard.
Ouais. Soyons dans la diversité, être au rendez-vous du donner et du recevoir. Ce que Léopold Sédar Senghor nous a appris, de toute façon, être dans la dialectique. Voilà. Ben, soyons tous ensemble. Voilà. Quelle que soit l'origine, voilà.
Super.
Je vous aime tous, voilà. Il n'y a pas moche, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, mais on est tous ensemble. Hein. Allez.
Et en direct de la place Guichard.
En place de la place Guichard. Avec les 40 ans de Radio Canu. Yes. Hein, ouais. Mais je ne suis pas un canular.
Parfait, merci beaucoup.
Allez, positive vibes with Bob Marley.
Yeah, good son.
Ouais.
Et maintenant, on va continuer avec le théâtre de la Gamelle. Ouais. Et pour les 40 ans de la plus rebelle des radios, nous vous présentons un texte d'Armand Gatti pour le plus rebelle des théâtres. Oui, ça m'a fallu longtemps pour trouver ce slogan. Et donc, c'est Tresse d'herbe fraîche pour Mathilde U, ménagère. Alors, Armand Gatti, c'est un journaliste, un metteur en scène.
On a déjà mis
Anaïs le jingle, mais je peux le refaire. Et Armand Gatti,
s'il
c'est
vous
un
plaît,
journaliste.
Soyons tous ensemble. Et que la France soit belle, que la France soit dans le monde entier, afin que tout un chacun puisse se retrouver dans sa place.
Très bien. Merci. Voilà. Parfait, merci beaucoup.
Je vous souhaite un bon week-end.
Merci.
Allez, et
positif.
Merci. Merci beaucoup et je retombe sur mes pieds. Ça ne veut rien dire comme expression.
Si, ça tombe sur tes pattes.
Voilà,
ça va.
Sur mes pattes. Et Armand Gatti, c'est donc un journaliste, un résistant parachutiste, un metteur en scène, un comédien, un réalisateur, enfin plein de choses. Il vient malheureusement de nous quitter depuis le 6 avril dernier.
Oui, effectivement, il est mort le mois dernier. C'était le directeur de la compagnie La Parole Errante. Et du coup, il était aussi directeur d'un lieu qui s'appelle la Maison de l'Arbre à Montreuil. Donc depuis 1986, et la Maison de l'Arbre, ça existe depuis 1998. On peut aussi rajouter que c'était vraiment un fils de prolétaire, un vrai prolo, fils d'un balayeur et d'une femme de ménage. Du coup, voilà, nous, on a choisi ce texte-là. C'est une pièce qu'il a écrite lors d'une résidence où il était dans le Brabant. C'est en Belgique, vraiment la campagne profonde de la Wallonie. Une résidence d'artiste, en fait, de 1972 à 1973, qui a duré 7 mois, de septembre à mai 1973. et du coup qui a pour but en fait, dans une dynamique de théâtre populaire, d'être à la rencontre en fait d'une ruralité qui était éloignée des questions qui préoccupent, on va dire, les théâtreux, et du coup qui permettait d'avoir un vrai théâtre populaire ancré. Voilà, donc du coup cette pièce, elle fait partie d'une série de 7 pièces qui s'appelle L'Arche d'Adelin. Donc vous pouvez retrouver du coup les écrits dans le théâtre complet là, qui est édité chez Verdier, si vous voulez vous procurer le...
Un gros pavé.
Gros pavé quoi, il y a plusieurs tomes. Et cette pièce parle plus particulièrement de la question du travail domestique, de l'exploitation du travail des femmes. A priori, quand on pense au travail domestique, on pense aux tâches qui ont pour but l'entretien de la maison, le soin des personnes qui composent la famille, donc le ménage, les courses, la préparation des repas, l'élevage des enfants, etc. Mais en fait, le concept de travail domestique, il est un peu plus large. Il comprend l'ensemble de la reproduction de la force de travail. Le travail domestique, sa caractéristique, c'est qu'il est dévolu aux femmes. Il est constant, illimité. Il n'y a pas d'horaire fixe. On n'a pas de limite temporelle. On ne s'arrête jamais en fait, de faire du travail domestique. Et le fait que certaines femmes soient salariées, ça ne change rien à la chose. Hein. Le travail domestique, il est réalisé en plus du travail salarié. C'est ce qu'on appelle la double journée de travail.
Et la charge mentale.
Ouais, justement.
Je rebondis sur la charge mentale parce qu'il y a eu un petit buzz ces dernières semaines autour de la bande dessinée de la dessinatrice Emma. Et donc le titre de la bande dessinée c'était Fallait demander, donc qui traite de la question de la charge mentale que supportent les femmes qui se retrouvent conférées au poste de chef de la planification des tâches domestiques. En gros, il faut penser à tout ce qu'on a besoin dans la vie quotidienne. Et c'est y a une des planches qui est assez drôle, enfin c'est traité de manière très ironique où la meuf elle se dit je vais aller débarrasser la table et elle va pour débarrasser la table et puis sur le chemin elle trouve un pull à ramasser donc à les ranger et puis entre temps elle se dit faut aussi que je nettoie la table et elle arrive à l'évier, il y a aussi la vaisselle à faire, donc au final pour une tâche qui devait prendre 5 minutes elle se retrouve 2 heures à faire
du ménage.
Et aussi pour dire que c'est une chose qu'on a tellement intégrée en tant que femme de cette charge, qu'on s'intègre cette planification de tout contrôler, pas tout contrôler mais de tout planifier, d'être responsable de tout. Et c'est une chose du coup qu'on retrouve dans cette BD qui est traitée de manière ironique.
Voilà, donc du coup effectivement cette pièce d'Armand Gatti, elle parle de ça, mais pas que, aussi de notre légitimité en tant qu'artiste de parler de la question des prolétaires, de la légitimité en tant que petit intellectuel de parler des travailleurs manuels. Je trouve que du coup ça interroge pas mal notre société sur qui parle à qui s'adresse à qui. C'est un petit peu c'est un peu la conclusion de la pièce. Voilà, c'est une petite pièce très courte, donc on vous invite à cette pièce, ça s'appelle une pièce trajet, c'est Armand Gatti qui appelle ça comme ça, et qui s'appelle, on le rappelle, Tresse d'herbe fraîche pour Mathilde U, habitante de Noira. Horaire de Mathilde U, ménagère à Noira. 5h45.
Lever, cirer les chaussures. Faire le lit, préparer le café. Garnir 6 boîtes de tartines.
Remplir 6 thermos.
Faire en sorte que chacun des 5 enfants, du plus grand au plus petit, range sa chambre.
Petit déjeuner.
Conduire les enfants au bus.
8h30.
Vaisselle.
9h le lundi.
Nettoyage.
9h le mardi.
Jour de lessive.
Essorage.
Repassage.
11h.
Achat dans les différents magasins.
Midi.
Pas de repas. Elle est seule à la maison.
Raccommodage.
14h.
Ranger le linge.
15h30.
Le bus ramène les enfants de l'école.
16h.
Goûter.
17h.
Veiller aux devoirs des enfants.
18h.
Préparer le souper.
19h.
Le souper.
Toute la famille réunie.
20h.
Vaisselle. Préparation de tout ce dont le mari et les enfants auront besoin le lendemain.
21h30.
Sauf en cas de film intéressant à la télé. Tout le monde est au lit.
Depuis son mariage, Mathilde U s'est coulée dans le moule de cet horaire. Il devient sa seconde vie.
Nini de R interroge. 365 jours sur 365, vous faites la cuisine. Cet horaire, vous l'emmenez dans vos valises, même lorsqu'il vous arrive de prendre des vacances. Mathilde, vous êtes la femme esclave que condamnent tous les mouvements féministes. Pourquoi ?
Mathilde tente d'expliquer.
C'est vrai que mon foyer ne me suffit pas. J'ai besoin d'une fenêtre ouverte vers l'extérieur. J'ai pris l'habitude de ça pendant toutes les années où je travaillais à l'hôpital. Il fallait toujours rendre service et avec le sourire. Mon sourire, c'est l'hôpital qui me l'a fabriqué. Je fais partie de Vie Féminine. Je vais aux réunions du comité scolaire. Je garde les enfants des voisines qui travaillent. Je couds pour elles ou je fais leur ménage. Ici, les gens se détestent. Peut-être ne font-ils que semblant. Peut-être se sentent-ils obligés de se détester. Peut-être ont-ils le sentiment que cela leur rend la vie plus facile. Avec de la bonne volonté, on arrive à s'entendre.
Mathilde, vous êtes chrétienne ?
Ça coule de source, non ? Ma foi, c'est ma manière de vivre. Et j'accepte les croyances de tout le monde.
Croyez-vous que ce soit suffisant ?
Comprenez. À Noira, les gens sont jaloux les uns des autres. Et pourtant, à 1000 francs près, nous gagnons tous la même chose. Les gens de Bouzeval nous évitent et les enfants le sentent bien. Que voulez-vous ? Les hommes et les femmes d'ici n'ont pas une vie normale.
Mathilde explique.
Eliane, qui travaille à la filature et qui, pendant ses instants de pause, court de la filature jusqu'à ici. Vous vous rendez compte de la distance ? Pour faire des piqûres à son mari, très malade, a-t-elle une vie normale ? Et Irma, qui se traîne toute la journée parce qu'elle a le diabète, dont deux enfants sont morts et le troisième est handicapé, a-t-elle une vie normale ? Voulez-vous que je continue ?
Mathilde dit encore.
Quand on vit dans ce monde-là, on se dit qu'il y a tellement de choses à inventer et à changer que le fait de s'occuper d'un foyer, comme c'est mon cas, paraît un privilège. Je comprends que pour les mouvements féministes dont vous me parlez, ce soit un esclavage, mais de qui sont-ils faits, ces mouvements féministes ?
Mathilde ajoute.
Ma mère est allemande, mon père flamand. La guerre nous a ruinés. Pourtant, c'est par une histoire de guerre que je me laisse guider. C'est une histoire que raconte mon mari.
L'histoire que raconte le mari de Mathilde.
Pendant la guerre, je suis allée au spectacle. Des collaborateurs se sont emparés des micros et ils ont demandé aux juifs de sortir. Sinon, il n'y aura plus de spectacle. Toute la salle est sortie.
Mathilde décrète.
Le mécanisme qui a mis une salle tout entière debout et qui, bloquant les mécanismes de la peur, l'a fait sortir, c'est ce que je cherche dans Noira.
Patrick demande.
Où est Noira ?
Noira est partout dans le monde.
Il y a 1000, 2000 Mathilde dans le monde.
C'est toujours Mathilde qui interroge. C'est aussi toujours Mathilde qui répond.
Il y a 10 000, 100 000 Mathilde dans le monde.
C'est toujours Mathilde qui interroge. C'est toujours Mathilde qui répond.
Il y a 1 million de Mathilde qui demandent et qui répondent.
Claudine interroge.
À quel endroit de la demande et de la réponse nous situons-nous ?
Yvan intervient. À quel endroit des demandes et des réponses que Mathilde fait aux milliers de Mathilde qui peuplent le monde se situe-t-elle elle-même ?
Patrick explique.
Toute vie est un processus de démolition. Quelquefois, la démolition commence tôt. Combien de ceux de mon âge ne se réveillent pas chaque matin d'une bataille trop dure pour eux ? Le corps brisé, les muscles foulés, l'âme morte ? Moi, dans ce spectacle, en ce moment, j'ai le sentiment d'être debout, au crépuscule, sur un champ de vie abandonné, un fusil vide à la main et les cibles descendues. Par le miracle de votre présence, mon immolation de moi-même est une fusée sombre et mouillée.
Pouvons-nous nous situer entre les demandes et les réponses de Mathilde sans nous immoler ?
Des centaines de visages, d'articles, de moments de notre quotidien répondent à Mathilde en ce moment.
Mathilde de Noira, au moment même où son nom est prononcé, est-elle vraiment un personnage ? Ce quelque chose de plus qui fait qu'un personnage commence à vivre au fond de vous et vous multiplie sur chaque fuseau horaire, peut-il encore être appelé Mathilde de Noira ?
5h45.
L'heure du lever de Mathilde.
L'heure du lever de Noira.
5h45.
Des lumières sont déjà allumées d'un bout à l'autre de Noira. Les réveils matins annonciateurs d'une journée aux rites inchangés. Le rite du petit déjeuner, le rite de l'autobus, le rite de la machine à pointer.
Célébré par des dizaines de robots à face humaine, qui au bout d'une vie deviennent des millions.
Sans très bien savoir en vertu de quel décret une telle multitude a accepté tant de rites préparatoires à un enterrement qu'il perpétue de gestes d'ouvriers en gestes d'ouvriers.
5h45.
C'est l'heure où les habitants de Noara désertent l'existence, leur existence, pour entrer dans un système, celui des profits et des pertes, celui de l'exploitation et du rendement.
5h45.
L'heure où dans l'existence laissée vide se profile l'ombre des futurs meubles à crédit. Les oiseaux devraient chanter, mais ils sont de plus en plus rares. Ils ont fui devant les usines qui fabriquaient des meubles à crédit, des réfrigérateurs à crédit.
5h45. Les premières voix de la journée, les premiers crachements, les premières invectives, les premiers pas sur l'asphalte. Les choses de nouveau se regardent et se reconnaissent.
La ligne de vie à Noara, ce sont les autobus Wavre-Nivelles dans les deux sens qui la tracent. La ligne de la vie a gagné.
5h45.
Noara, cité du sommeil, connaît sa culmination avec le réveil annoncé par tous les réveils matins du monde du labeur.
Debout dans sa cuisine, Mathilde. Par le poste de radio, l'Europe et le monde pénètrent dans Noara. Ils en font le tour.
C'est un monde avec des milliers de Mathildes. Que font les Mathildes de par le monde lorsque Mathilde de Noara prépare le café et les tartines pour ses 5 enfants et son mari ?
Première certitude qui fait partie de la clarté qui commence à ce moment, posée timidement encore entre les carreaux des fenêtres, c'est que l'heure du réveil de Noara fera le tour du monde pour revenir à Noara au moment précis où Mathilde prendra place dans la cuisine pour préparer le café.
5h45 à Noara, c'est aussi 5h45 à Paris.
La Mathilde de Paris est déjà dans le métro.
À Amsterdam, il est aussi la même heure. La Mathilde hollandaise dort.
C'est une femme d'affaires.
Les somnifères qu'elle a pris avant de se coucher la conduira jusqu'à 9h. Réveillée, elle prendra un excitant que son médecin se procure en Suisse.
La Mathilde hollandaise est une femme d'affaires. Elle donne en moyenne 40 coups de téléphone par jour.
Au bout du fil, son but dans la vie, il varie selon les commandes.
Pour l'instant, elle dort.
Mathilde voudrait lui dire.
Curieuse évasion que cette recherche du but de la vie.
Elle voudrait lui dire encore.
Dis-toi, Mathilde, que c'est un caillou sur le bord du chemin, le but de ta vie.
Le commencement est la fin, et le commencement est le premier pas. Et le premier pas est le seul pas.
Mais elle n'ose pas arracher Mathilde à ses somnifères.
Il est midi à Woodend, de l'autre côté des mers que Mathilde n'a jamais traversé. Mathilde quitte le bureau pour aller au restaurant. Sur chaque table, il y a des jonquilles fraîches qui ont tout l'éclat du printemps. Presque toutes les tables sont occupées par des personnes qui parlent très fort et qui rient. Les mêmes qu'à Bruxelles, du temps où Mathilde y habitait avec son mari juste avant de devenir à Noara.
Mathilde pense.
Voir les gens manger n'est pas un spectacle plaisant. Manger publiquement est peut-être une coutume barbare.
La Mathilde de Noara, c'est ce que la Mathilde Wenwood regarde en ce moment même.
Un homme qui s'est gorgé de vin et de viande est en train d'allumer un gros cigare. Un air de béatitude apparaît sur son visage gras. Sa femme, également grasse, allume une cigarette. Ils paraissent tous deux perdus au monde.
À Noara, Mathilde pense.
Elles sont là, les jonquilles jaunes, et personne n'y prête attention. Elles sont là dans un but décoratif et n'ont absolument aucune signification. Et pourtant, elles remplissent la salle. Sans identification, sans nom. Dans un anonymat qui est innocence. L'amour n'est-ce point cela ?
Mathilde se dit.
Je ne suis jamais allée en Amérique. Je ne suis même jamais sortie de Belgique. Ça, c'est le sort des économiquement faibles, de ne voyager qu'à 5h45. Et encore pendant quelques minutes seulement.
Shannon, il n'est pas encore minuit. Mathilde de Shannon s'est couchée tôt parce que demain elle doit aller travailler à 8h. Mais elle ne trouve pas le sommeil.
La Mathilde de Shannon a le même visage que celui de la voisine de Noara.
Juste 3 maisons plus bas.
Je sais, dit Mathilde à Mathilde.
Vous savez ?
Votre mari travaille dans un bureau. Il est enfermé dans ses ambitions, ses frustrations. Et vous, de votre côté, vous êtes enfermée de la même manière. Il rentre à la maison fatigué, irritable, avec la crainte dans son cœur. Et il ramène toute cette tension avec lui. Vous prenez un verre... Je continue. Vous prenez un verre de quelque chose pour vous calmer vos nerfs, puis vous tombez dans des conversations malaisées.
Après cela, le repas, puis l'inévitable lit. Enfin, c'est ce qu'on appelle des rapports conjugaux.
Chacun vit dans son activité égocentrique et les deux se retrouvent au lit. C'est ce qu'on appelle l'amour. Bien sûr, cela comporte un peu de tendresse, un peu de considération pour l'autre et de petites tapes sur la tête des enfants.
C'est ce qu'on appelle vivre.
Et Mathilde demande, vous acceptez ce mode de vie ?
Mais que puis-je faire d'autre ? Nous sommes élevés dans ce mode de vie. Notre éducation nous y a adaptés. Nous voulons une sécurité. Mon mari veut plus. Il veut la réussite. Il veut demain.
La Mathilde de Denoira sait qu'il n'y a pas de demain, même si en pensée on essaye d'en construire un chaque jour. Elle dit
« L'amour n'est pas demain. Il n'a ni passé ni futur. Vivre comporte une grande intensité, une beauté que n'effleure ni l'ambition, ni la jalousie, ni le temps. C'est une relation non seulement avec l'homme, mais aussi avec la nature, les fleurs, la terre, les cieux. En cela est l'intensité et l'innocence. Dès lors, vivre a une toute autre signification. »
Et Mathilde pense
« Il faudra, si j'en ai le temps ce soir, que j'aille discuter avec ma voisine. »
Juste 3 maisons plus bas.
Il est 14h, Kuelou, chez les Chouans. Rien ne pourrait distraire Jouéa de son tableau de bord. Jouéa, c'est encore Mathilde. Elle essaye d'exécuter correctement un atterrissage dissymétrique qu'elle a raté la veille. Avant d'être pilote, elle était infirmière, comme Mathilde.
Mathilde voudrait lui dire
« J'ai travaillé comme garde-malade sur la côte, à Mariakerke, pendant 10 ans. »
L'atterrissage dissymétrique ne permet pas à la Mathilde de Kuelou de répondre.
Et celle de Noira ?
Nous en reparlerons plus tard dans la journée, pendant le repassage.
Il est 5h45 à Noira. Il est 18h45 sur la chaîne des monts Chang Paichan. Sur la montagne Paichan, la moins connue de la chaîne, habituellement abandonnée aux conifères, une commune de 170 familles, comme à Noira, vient de surgir. Elle s'appelle Wan Liang. Wan Liang parle un langage que Mathilde de Noira comprend.
Il est 18h45. La journée est presque terminée à Wan Liang, peut discuter.
Mathilde aime discuter avec les villages qui naissent au milieu des forêts. Elle qui n'a pas de souvenirs d'enfance sait mettre à la place des villages forestiers. Elle discute avec eux comme on discute avec les souvenirs d'enfance.
Les 15 paysans de Wan Liang, du district de Fuzhong, de la région de Qiling, sur la montagne Peichan, ont le visage de personnes qu'elle a connues et qu'elle a aimées.
Sa famille, en somme.
Sa famille qu'elle a quittée lorsqu'elle avait 28 ans, lorsqu'elle s'est enfin mariée, et qui vient donner des nouvelles de cette façon pendant que l'eau bout sur le gaz.
À Montalero, sur les collines qui regardent le pot couler au loin, Mathilde fait la vaisselle. Mathilde de Noira la connaît bien. Elles sont de la même race toutes les deux. Des filles de prolétaires, des femmes d'employés, des mères d'enfants qui essayeront de franchir la ligne et de passer de l'autre côté. La Mathilde des collines fait la vaisselle exactement comme le fera dans une heure la Mathilde du Brabant.
L'autre demande
« Quelles nouvelles ?»
Et Mathilde répond « Je n'écoute pas les nouvelles, je ne lis pas les journaux. »
« Pourquoi ? Il faut savoir. »
« Ce n'est pas les changements de gouvernement qui vont rendre les gens de Noira plus heureux. Et toi ?»
« Quel malheur dans nos hameaux. L'obligation d'être du côté du plus fort parce qu'il y a la peur en chacun de nous. Si je n'étais pas obligée d'aller voter, je n'irais plus. » Aux élections, le bourgmestre passe de maison en maison et distribue des draps de lit pour qu'on vote pour lui. Dans un foyer économiquement faible, une paire de draps est toujours bien reçue. Et puis, c'est difficile de dire non.
Fausse promesse.
Draps de lit.
Pétition contre les paysans sous prétexte qu'ils élèvent des cochons.
Révolte qu'il faut cacher.
Mathilde pense. On dit que le Tour d'Italie commence cette année en Belgique. Ce qui est vrai pour le cyclisme doit l'être aussi pour les villages. Mathilde, dont le seul voyage dans la vie a été le passage d'une langue à l'autre, du flamand au français, fait chaque matin à 5h45 le tour du monde.
Vous savez avec quoi je discute le plus ? Avec le silence.
Il y a le silence entre deux bruits, le silence entre deux notes, et le silence qui s'élargit entre deux pensées.
Il y a le silence à travers lequel on entend les chiens aboyer.
Le silence dans une maison où tout le monde est allé dormir.
Le silence d'une maison désertée. Celui de la méditation. Celui de l'église lorsqu'il n'y a pas de touristes à l'intérieur.
Ce avec quoi je discute le plus, c'est le silence entre deux êtres humains. lorsqu'ils ont vu la même chose, senti de la même façon et agi. C'est un silence aussi réel que le parquet que je brosse ou les meubles que j'époussette.
Lorsque cette discussion-là a lieu, il est déjà 6 heures. La journée de Mathilde, une de plus, a déjà commencé.
L'an dernier, nous avons fait tous les quatre un spectacle qui commençait par cette interrogation.
Qui s'adresse à qui?
En cours de route, nous l'avons annulée. Elle ne correspondait plus exactement à ce que nous avions à dire. Mais aujourd'hui, cette interrogation revient.
Qui s'adresse à qui?
Est-ce nous, les intellectuels?
Les petits bourgeois.
Qui nous adressons à ceux dont l'existence commence tous les jours à 5h45?
Est-ce une femme de Noara qui s'adresse à ceux qui habitent Noara toute l'année?
Elle ne fait pas de révélation, la femme de Noara.
Elle ne dit pas ce que tout le monde sait.
Malheur à celui par qui le scandale arrive!
Tout est bien propre, bien épousté, net, clair dans ce qu'elle dit.
Comme son appartement.
Depuis 1932, date à laquelle elle a poussé son premier cri, on lui a toujours appris que le savon, le détergent, la lessive n'étaient pas des produits, mais des vertus.
Pour chaque économiquement faible du Brabant, l'existence n'est accordée qu'à partir d'un appartement propre.
D'abord, vivre.
Alors, est-ce notre intention que l'habitante de Noara, qui devait devenir Mathilde dans notre langage, a sorti des mots aussi nets que la nappe de sa table?
N'est-ce pas plutôt Mathilde qui s'adressait à toutes les habitantes de Noara? N'est-ce pas, une fois de plus, notre génération qui essaye de s'adresser à celle qui l'a précédée?
Mais serait-ce des apprentis comédiens, ou des comédiens tout court, qui s'adressent au monde rural, une abstraction parmi tant d'autres dont est fait leur métier?
Sont-ce des personnes hantées par les problèmes des femmes d'aujourd'hui, qui s'adressent à une femme qui ne l'est pas?
Qui s'adresse à qui?
Sont-ce les gens de Noara qui parlent aux gens de Noara, nous n'étant que des révélateurs, des intermédiaires?
Qui sommes-nous?
Des hippies,
des subversifs,
des anarchistes,
des féministes,
des trafiquants de drogue,
un détachement de l'IRA,
des agents français venus préparer le rattachement de la Wallonie à la France,
des membres du théâtre de la Gamelle.
Nous sommes des gens qui sommes venus vous dire « Chaque être humain est un soleil »,
Mathilde nous a demandé.
Le soleil n'a pas besoin de parler pour chauffer. Nous avons répondu
« Non ».
Alors Mathilde a dit
« Je serai ce soleil-là ».
C'était donc le théâtre de la Gamelle pour les 40 ans de Radio Canu.
Joyeux anniversaire,
bon anniversaire Canu. Et vous venez d'écouter un texte d'Armand Gatti, tresse d'herbe fraîche. Je manque un truc. Pour Mathilde U. Ménagère, et c'était avec
Anaïs,
Bérangère,
Anne-Sophie,
Léa
et Charlotte. Ouais, merci pour cette invitation sur la place.
Voilà, et bonne continuation pour cette journée. Profitez bien de Radio Canu aujourd'hui et les autres jours.
Les autres jours, ouais.
Merci. Merci.
Vous nous avez imposé l'hétérosexualité comme seul modèle de sensibilité, de sensualité et de sexualité. Les garçons aiment les filles et les filles aiment les garçons. Votre conception de l'amour s'est limitée à la procréation de chair à canon. Alors que la nôtre appartenait déjà au royaume des désirs, du plaisir, de l'affection et des étoiles. Puis vous n'avez cessé de propager la haine des queers, la haine des différences. Vous nous avez brûlés, enfermés, chassés, déportés, gazés, dénoncés, psychiatrisés, étudiés, ghettoisés, expérimentés, niés. Puis attestés, testés, contestés, détestés. Thank you. plus que jamais. Nous ne voulons ni de votre sexualité bénité, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal capitaliste raciste, nourri de la domination des unes sur les autres. Votre intégration, c'est la désintégration de nos passions. Nous ne cherchons pas à imiter ceux qui nous ont constamment réprimés. Vos images, vos clichés, vos jouissances virtuelles et marchandes ne nous intéressent pas. Nos amours et nos sentiments ne se normalisent pas. Nos corps ne se commercialisent pas. Nous ne sommes pas capitalisables. Nous sommes ingouvernables. C'est la désintégration de nos passions. Nous ne cherchons pas à imiter ceux qui nous sont constamment réprimés. Vos images, vos clichés, vos jouissances virtuelles et marchandes ne nous intéressent pas. Nos amours et nos sentiments ne se normalisent pas. Nos corps ne se commercialisent pas. Nous ne sommes pas capitalisables. Nous sommes ingouvernables.